Alphonse Daudet. Premier voyage, premier mensonge. 1. Introduction. Des mémoires, des souvenirs, je puis dire comme Baudelaire, j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Mais de cela, certains se lèvent droits et distincts, et d'autres manquent de suite, de cohésion, laissant de grands intervalles de mémoire. J'essaierai d'être sincère et de ne pas trop inventer, quitte à laisser parfois un blanc dans la page commencée. Ainsi, par exemple, de cette première soirée où commence mon histoire, je me rappelle seulement que c'était à Beaucaire, au bord du Rhône, dans un Beaucaire déjà bien déshérité de ses grandes foires anciennes, et où se balançaient, claquaient au vent, des écriteaux de maisons vides et allouées. L'aubergiste nous a donné, à mon jeune cousin et à moi, sa grande chambre pour que nous ne soyons pas en bar ou cabaret avec les soldats, sa clientèle habituelle. Cet aubergiste, attendez, j'y suis, et sa femme s'appelait Toustin. C'étaient des anciens domestiques de mes parents à Nîmes. Ils s'étaient mariés, avaient acheté ce petit fond d'auberge où je me trouvais ce soir d'été avec mon jeune cousin Léonce. Mais que c'est loin tout cela! Que c'est confus! Ce que j'ai écrit sur mes petits cahiers par une longue habitude, cela, j'en suis sûr, c'est véridique et fixé. Mais cette aventure dont je vous parle, je ne l'ai pas notée. Elle se perd dans ses temps d'enfance à l'état de rêve. Le nom de l'auberge, un cheval blanc ou un chapeau rouge quelconque, dans une petite rue très noire où rugit le vent, où battent les volets, car les jours de Mistral, il souffle si fort à Beaucaire qu'on tend des cordes d'une maison à l'autre pour s'y cramponner. Dans la rue, je vois un grand carré de lumière qui est le reflet de la salle basse où chantent les soldats. Et ces soldats revenant de Crimée me donnent la date de mon histoire, ce devait être en 1854 ou 1855. Les murs sont crépis de blanc dans la grande chambre où le lit bateau à baldaquin de vieille perse fanée occupe presque toute la pièce, avec une commode ventrue sur laquelle une vierge de plâtre tient compagnie à un vieux bouquet d'orangers, un bouquet de mariage tout poussiéreux sous son globe de verre. La fenêtre s'enfonce dans une embrasure profonde et sur l'appui de bois qui comble l'épaisseur des murs, deux jeunes gens sont assis avec leurs petits repas entre eux. Parmi tous ces souvenirs dispersés, enfin, pourquoi, mystère de la mémoire, pourquoi se rappeler le mince souper, le perdreau servi dans une sauce ravigote. Repas romanesque, repas d'aventurier pris à part et presque dans l'ombre, pour que les deux enfants ne soient pas mêlés aux chansons et aux bousculades de la salle basse de l'auberge. De ces deux physionomies, celle d'Alphonse, je ne puis guère l'évoquer après si longtemps, mais je revois très bien dans la demi-obscurité mystérieuse la figure pâle et fiévreuse, les yeux brillants, aigu, de son petit compagnon, du méridional de 12 à 13 ans, adroit, avisé, avec un inquiétant petit frisson à la bouche, un sourire en coin, sourire railleur, énigmatique, dont je ne comprenais pas alors l'expression véritable. 2. Il est assez extraordinaire, surtout en France où la jeunesse n'est pas émancipée comme en Angleterre, de voir deux jeunes garçons, deux lycéens, seuls dans une chambre, sans parents, sans précepteurs, chambre d'auberge d'un pays inconnu. Voici l'explication de cette chose inusitée. Nous partions pour le lycée de Lyon finir nos études. Le chemin de fer commençait à fonctionner, mais il était très cher, et nos parents, qui n'étaient pas riches, avaient songé à se servir des bateaux à vapeur qui remontent le Rhône et font le transit et le commerce de marchandises de Lyon à Marseille. Il arrivait souvent qu'on voyageait ainsi par faveur sur ces bateaux. Mes parents, connaissant un capitaine auquel ils nous recommandèrent, s'étaient décidés à nous envoyer par cette route pour prendre le paquebot. Le Rhône passe à Beaucaire et Nîmes est à 5 heures de Beaucaire. Nous étions venus en diligence à travers des champs d'oliviers, vignes, mûriers, des plaines ondulantes, sur une route où il y avait 2 pieds de poussière blanche, craquant comme de la neige, poussière tourbillonnante qui agite et voile le paysage et ajoute encore à la confusion de notre première étape. Ce que je me rappelle très bien, c'est la fierté que j'avais de porter dans ma poche une lettre de recommandation pour le capitaine Reboul. En voilà un nom qui n'est pas oublié. Et une autre lettre aussi pour ces Toustins, aubergistes à Beaucaire, dont je viens de vous parler. C'est cette particularité d'anciens serviteurs qui avait décidé nos familles à nous envoyer seuls, car il fallait passer une nuit dehors, le bateau venant de la Tour Saint-Louis et n'arrivant que vers 6 heures du matin. Ne me demandez rien d'autre sur ces gens. Je ne m'en rappelle pas un trait, pas un son de voix, mais je n'ai pas oublié ma fierté de ces deux lettres dans ma poche, ni ce battement de cœur, cette joie immense du premier voyage, de la liberté conquise. Puis c'était l'idée, chère à un lecteur de tous les Robinson, que j'allais enfin mettre le pied sur un bateau. Il faut vous dire que ma ville natale est un pays extraordinaire, brûlé, desséché par le mistral et le soleil, comme cette vieille carcasse de cachalot que Darwin nous montre portée en triomphe, dépecée par les naturels de la terre de feu, et dont ils se nourrissent. C'est une ville très ancienne, du temps des Romains. Alors l'eau y venait du Rhône par de magnifiques aqueducs, comme celui du pont du Gard, mais nous sommes loin de ce temps-là. Le pont du Gard n'est plus qu'un monument historique que les Anglais ne manquent jamais d'aller voir, et superbe à regarder par sa lancée de 3 étages d'arceaux qui rejoignent 2 hautes collines de verdure. Mais comme aqueduc, il ne fonctionne plus. Et les pauvres habitants de Nîmes, depuis les Romains, tirent la langue en rêvant de fontaines, de cascades et de lacs. De tout temps, nos députés, quand ils font leur profession de foi électorale, ne manquent jamais de promettre de l'eau. L'un doit la faire venir par un canal, l'autre par des aqueducs, et avec la belle imagination méridionale, nos compatriotes, prenant d'avance toutes ces promesses au sérieux, ont construit d'avance des fontaines à tous les coins de rue. Sur les places, il y a des bassins ornés de statues de pradiers, avec des lions, des dauphins, des tritons, se déversant dans des vasques en beau marbre blanc. Une fois les élections passées, le député oublie sa promesse, l'eau ne vient pas et les bassins restent vides, les dauphins, la gueule ouverte, bâillent au soleil dans le blanc du marbre, avec des toiles d'araignée dans la gueule et une poussière qui s'épaissit et noircit les accessoires mythologiques des nymphes et des tritons. 2 traits caractéristiques me reviennent qui vous donneront une idée de cette disette aquatique. Dans la fabrique de mes parents, aux portes de Nîmes, fabrique de tissus où je suis né, dont je parle longuement dans le Petit Chose, il y avait des bassins et un réservoir où les ouvriers lavaient les étoffes. L'eau de ce réservoir était huileuse, teintée de vert, de jaune, de rouge, et je me rappelle notre stupeur en voyant un jour un vieil officier retraité de nos amis arrivant chez nous avec son petit-fils, auquel il voulait donner une leçon de natation.
« Mais où, mon Dieu, dans quoi ?» demande mon père.
« Mais dans votre réservoir. »«
Voilà alors le réservoir, » dit mon père, « puisque vous voulez vous en servir. »
Je vois la tête ahurie du petit émergeant d'une couronne d'outre, de ceinture de liège, d'appareils en caoutchouc. Le grand-père, tortillant sa moustache, l'air contrarié, un peu déconfit. Nous tous, autour de cette eau huileuse et nauséabonde. Il y avait juste la place de prendre un bain de pied, et quel bain de pied dans ce bassin de teinturerie! L'autre trait paraîtra encore plus incroyable. Je me rappelle fort bien qu'à cette époque, à Nîmes, les blanchisseuses n'ayant pas de ruisseau pour laver leur linge, dès qu'il y eut un petit chemin de fer de Nîmes au Rhône, elles le prirent pour porter leurs paniers et leurs baquets. Les soirs d'été, c'était quelque chose que l'arrivée de ces jeunes femmes ou jeunes filles, au teint mat et fiévreux, rentrant avec leurs paquets de linge encore tout trempés. Et quand elles sortaient de la gare, la foule attirée s'attroupait sur leur passage et humait avec délice la bonne fraîcheur de ces masses ruisselantes, dont les pauvres Nîmois approchaient les mains brûlantes et sèches, en murmurant « Oh, daigo, daigo, daigo !» De l'eau, de l'eau, de l'eau. Et si vous trouvez l'anecdote un peu excessive, mettez cela sur le compte de l'imagination de votre ami. Ah, cette damnée imagination, c'est elle qui, dans ce milieu de sécheresse, m'avait donné dès ma plus petite enfance la passion de l'eau, de la mer. Je ne rêvais que d'elle. Mes lectures étaient Robinson Crusoe, Aventures et voyages de Garneret, un peintre de marine qui avait été matelot, avait beaucoup voyagé sous la Révolution, le Premier Empire, et, prisonnier des Anglais, a su raconter ses souffrances sur les pontons de Portsmouth. Une autre de mes lectures favorites, c'était les romans du capitaine Maria et surtout le Midship Stasi. J'en rêvais de ce Midshipman, et c'est à lui en partie que je dois les aventures que je vais raconter au Midship Stasi et aussi à un mousse qui avait été mon camarade de collège, un mauvais petit drôle, paresseux, cancre, qui, ne voulant rien faire, avait été chassé par ses parents et s'était engagé sur un bateau comme mousse. Il s'appelait Ten, mais n'avait aucun rapport avec le grand écrivain philosophe, auteur de la littérature anglaise, que j'ai connu au dimanche de Gustave Flaubert, et qui, chaque fois que je l'ai rencontré, m'a fait penser à mon petit camarade Ten. Embarqué sur je ne sais quel navire de l'État, après un temps à l'école des mousses, ce Ten était allé en Crimée avec la flotte française, et là, tombé malade du choléra, sauvé par miracle, on l'avait envoyé en convalescence à Nîmes, dans sa famille, où il était un peu dans la situation délicieuse de l'enfant prodigue, indigestionné de veau gras. Dans son costume de marin, qu'il s'était bien gardé de quitter, avec le cou nu, le grand col bleu, le chapeau de toile ciré campé sur le haut de la tête, en auréole, Taine, pendant quelques mois, fut le héros de la ville. Nous marchions en bande autour de lui, sur les boulevards, sur l'esplanade, à la musique. J'étais fier quand je pouvais lui donner le bras. Je recueillais ses moindres mots avec un tel soin, avec une telle religion, que même aujourd'hui, la phrase qu'il répétait le plus souvent m'est restée dans le souvenir. Quand on lui demandait si le métier de marin lui plaisait, il répétait chaque fois « trop de bouillon pour si peu de viande ». J'en rêvais de ce Taine et de ses histoires sur la Crimée, sur l'hôpital de Gallipoli, sur l'école navale française, momentanément installée à Varna, dans laquelle il avait eu un moment l'intention d'entrer. Malheureusement, le pauvre garçon manquait trop d'orthographe. Ah, si j'avais été à sa place ! Et je me voyais en aspirant, avec la veste bleue, la petite casquette plate galonnée d'or. J'avais comme confident de mes rêves, de mes ambitions, un petit cousin, Léonce, dont je vous parlais tout à l'heure, tantôt chez moi, à notre fabrique de la route d'Avignon. Je remue de la vieille poussière de mon enfance, tantôt chez mes parents, qui avaient une pharmacie sur une petite place, à nom médicinal. Oh, la pharmacie, avec ses deux bocaux roses et verts, qui, le soir, mettaient deux taches colorées sur la place à cailloux pointus, avec ses grandes vitrines pleines de fioles où tremblaient des choses mystérieuses. Elle tient dans mon souvenir une place presque aussi importante que la fabrique. Je l'ai glissée dans presque tous mes livres. On la retrouve dans chaque coin de Tartarin. Je n'entre jamais dans une de ces officines aux odeurs évocatrices sans me rappeler celle de mon enfance et les friandises qu'elle contenait. Jujubes, réglisse, pastilles, pâtes de guimauve, pâtes de lichen. Seulement, il y avait toujours du monde. À chaque instant, la petite sonnette de la porte d'entrée tintait, annonçant un client nouveau, surtout les jours de marché, car nos paysans du Midi sont très amateurs de choses pharmaceutiques, aimant les infusions, les douceurs. Quand les vignes allaient mal, la pharmacie était abandonnée, mais quand les cuves rendaient bien, nos bons paysans affluaient pour acheter des drogues. Nous nous tenions le plus souvent dans une petite cour noire, ce qu'on appelle un ciel ouvert, et là, nous causions avec l'élève, le potard, un tout jeune homme, tandis qu'il pilait des herbes dans un mortier de marbre, mes robinsonnades allaient leur train. L'élève aussi, un sédentaire imaginatif, se mêlait à nos divagations, divagations interrompues de temps en temps par la sonnette de la porte. Ah, la sonnette de la porte de la pharmacie, qu'elle tintait joyeusement alors! Mais maintenant, elle sonne toujours à mon oreille comme un grelot que mes souvenirs cabriolants porteraient au cou. Le petit Léon, en ce temps, était au lycée de Nîmes avec moi. J'avais une influence sur lui, car il était en retard dans ses classes, quoique très intelligent, enfant gâté d'une mère veuve. Mon autorité, bien relative, était moins le fait de mon âge, je n'avais qu'un an de plus que lui, que celui de la différence de nos classes. Et comme nous nous aimions beaucoup, j'avais obtenu sans grande peine de l'emmener avec moi au lycée de Lyon, sa mère faisant tout ce qu'il voulait.
Et voilà pourquoi Alphonse et Léon s'étaient assis sur le rebord de cette croisée d'auberge, avec un perdreau froid à la sauce ravigote entre deux, et pour horizon, les murs noirs, comme effrités de caractères hiéroglyphiques, antithèse de la vieillerie des choses, à toutes les inventions, les idées aventureuses qui hantaient leur jeune tête ce soir-là. Jusqu'à quelle heure se prolongea notre veillée, voilà ce qu'il me serait impossible de vous dire. Mais vous pouvez aisément imaginer notre joie, nos bonds de cabris, nos projets, les grands coups sourds qui battaient dans nos jeunes poitrines à l'idée de ce bateau sur lequel nous allions poser le pied dès le lendemain matin. À chaque instant, je tâtais la poche de ma petite veste pour voir si la lettre au capitaine y était toujours. « L'as-tu ? » demandait Léonce avec angoisse. Alphonse répondait avec un sourire hautain. « Je l'ai !» car déjà s'agitait en moi l'orgueil de ma supériorité sur ce jeune Télémaque confié à ma sagesse de mentor. Montait en moi aussi, sous une forme encore indécise, comme un nuage qui amoncelle de la tempête sur l'horizon, le beau mensonge qui allait conduire et transfigurer notre vie pendant quelques jours.